France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Sarah Nemtanou et je suis née à Bordeaux en 1981 et je suis violoniste.
Après le récit hier de sa petite enfance à Bordeaux dans les années 80, entre un père violon solo de l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine et une mère chanteuse, Sarah Nemtanou se confie aujourd'hui à propos de son quotidien de musicienne en herbe. En compagnie de sa petite sœur Déborah, la musique est un jeu d'enfant.
La plupart de nos temps libres, des week-ends, des choses comme ça, évidemment, on a eu une éducation musicale, évidemment, où on nous a appris quand même que si on veut du résultat, il faut travailler un minimum. Donc il y avait toujours quand même ce travail quotidien, il y avait l'heure ou les deux heures auxquelles on ne pouvait pas couper, mais d'une manière totalement pédagogue et pas forcée. Et d'ailleurs, notre père a été très fin là-dessus, parce qu'il nous a énormément appris, à moi et à ma sœur, à nous responsabiliser dans le travail, c'est-à-dire être objectif. Et aujourd'hui, j'ai cette chance, je pense, d'être lucide sur ce que je suis et mon niveau en général. Je sais quelles sont mes lacunes, je saurais très bien définir quels sont mes points forts et moins forts en violon aujourd'hui. Et voilà, il nous a appris ça. Donc on a été indépendants très tôt. Donc les souvenirs que j'ai, c'est plutôt de regarder des dessins animés avec ma sœur et mon frère un peu plus tard, notamment Tex Avery, tout ce qui est Disney, tout ça. On adorait faire du vélo, comme je vous le dis. Mais en musique, j'ai évidemment des souvenirs avec ma mère qui, lorsque mon père était absent, essayait de nous faire travailler. Et c'était vraiment la diva, quoi. Mais non, mais tu comprends pas, là, ça doit... Et puis elle était au piano parce que, bon, elle voulait nous montrer la justesse par rapport, voilà, à ça. Mais là, et en fait, sur le moment, je me moquais d'elle. Je lui disais, mais t'y connais rien, tu comprends rien, ça m'énerve. Et en fait, aujourd'hui, ce que je retiens de ça, c'est qu'en fait, le violon, un instrument à cordes, c'est une voix. Au contraire du piano, de tous ces instruments harmoniques, on est une voix. Et ça m'a énormément aidée. Et ça m'aide aujourd'hui, et même quand j'enseigne aujourd'hui, parce que j'adore ça, ils m'ont transmis ça, mes parents, je parle de ça. C'est-à-dire qu'elle m'a appris à parler avec... le violon, c'est ce que j'essaye de faire par-dessus tout, avec la compréhension évidemment du texte et évidemment la construction de l'œuvre. Mais les souvenirs, c'était vraiment le partage, c'était ça, c'était l'échange.
Oh, yeah. l'école, et puis la musique. La musique, on l'entend, qui est directement le violon. Le violon dont le premier professeur est votre père.
Oui, voilà, c'est ça. Je commence le violon donc à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. Et je commence tout doucement, voilà. J'insistais vraiment et mon père a fini par céder. Et comme j'ai une sœur qui a vraiment pile, on est toutes les deux de juillet, et j'ai deux enfants qui sont tous les deux de février. J'ai un peu reproduit le... on a pile 2 ans d'écart. Et voilà, donc on était 2 contre 1. Donc quand j'avais 4 et demi, 5 ans, et elle 3 ans, on lui tournait autour et on tenait absolument en tirant son pantalon. « Papa, s'il te plaît, on veut faire du violon. » Donc ça... On a insisté et il craignait quelque part, voilà, d'être notre mentor, notre professeur, parce qu'il voulait bien faire et donc il s'est renseigné. Il a lu plein de bouquins, notamment celui d'Ivan Galamian, qui était un grand pédagogue russe. Et il a essayé, voilà, de faire de son mieux et en fait, il a autant appris avec nous qu'on a appris avec lui. Lui dans le sens pédagogique et nous évidemment le violon. Et ça a tout de suite marché. Il a tout de suite pris le parti de nous responsabiliser. Et c'est vrai qu'il y avait l'école et jusqu'au collège, on allait à l'école normalement. Et au collège, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de structure qui offrait des horaires aménagés musique. Mais mes parents ont facilement trouvé un horaire aménagé sport qui ont accepté de me recevoir. Donc j'étais dans une classe de sportifs. C'était génial. J'étais trop contente parce que ça faisait du coup un mélange aussi. Et moi, je voyais d'autres gens, d'autres sphères. Et voilà, ça me convenait parfaitement. Et à l'âge du coup de, c'est vrai, un petit peu avant, au collège, 13-14 ans, mon père a été nommé en tant que professeur au conservatoire de Bordeaux. Donc, on est rentré dans sa classe, moi et ma sœur, pour avoir une structure. Et puis aussi, on a fait du solfège, bien avant aussi, à partir de l'âge de 10 ans, 11 ans, on a fait du solfège au conservatoire de Bordeaux. Donc, on a eu tous les agréments qui nous ont permis, voilà, d'être officiellement dans le circuit de jeunes étudiants musiciens. Et on a eu notre médaille d'or, moi et ma sœur. On a eu notre diplôme en perfectionnement aussi. Ensuite, on a présenté le CNSM. On a rencontré Gérard Poulet 1 an avant de rentrer au CNSM lors d'un stage à Prades. Et puis un coup de foudre entre nous. Il a été séduit par le côté des deux sœurs qui viennent toutes les deux avec leurs parents, soutenues par leurs parents et notre histoire. Et on a gardé un lien très très fort jusqu'à la fin de mes études. Voilà, c'est un parcours facilité par l'intelligence de parents qui veulent au mieux sans non plus dénaturer le parcours scolaire normal. Donc j'ai des amis qui sont non musiciens encore aujourd'hui et j'ai eu cette chance vraiment, vraiment, voilà, d'avoir un parcours ouvert. Souvenir aussi de mon père qui travaillait énormément, qui était dans la recherche permanente, mais pour nous apprendre, pour qu'il puisse répondre à nos questions. Et encore aujourd'hui, je l'appelle et je peux lui jouer un extrait par téléphone et lui dire là, je coince, là. Et il est toujours de bons conseils. Il est aujourd'hui à la retraite cette année du CNSM de Lyon où il a enseigné 14 ans. Et il dit que c'est grâce à nous, à notre notoriété, qu'il a pu être nommé là-bas. Mais non, c'est grâce à lui, parce qu'il a une pédagogie extraordinaire. Et tous ses élèves l'adorent. Et voilà, donc c'est un pédagogue vraiment en or et il m'a transmis ça.
C'était quoi la méthode de votre père? Parce que lui, j'imagine qu'il avait reçu un enseignement spécifique d'une certaine école. Peut-être, je ne sais pas s'il y a une école balkanique, est-ce qu'on peut dire ça? Et en même temps, s'inspirer donc de cette méthode que vous évoquiez tout à l'heure de Galamian. Et puis, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Je ne sais pas, on parle beaucoup de la méthode Suzuki, par exemple, pour apprendre aux enfants qui sont tout petits. La musique comme une langue maternelle, est-ce que ça faisait partie des méthodes qu'il agrégeait à tout son corpus? Comment vous définiriez
Absolument. Mon père a eu comme professeur Stéphane Gheorghiu. C'était un grand pédagogue en Roumanie, au conservatoire de Bucarest. Et il a été lui-même élève de David Oistrakh. Et donc, il avait même des partitions qui étaient annotées par David Oistrakh, dont il était très fier, et dont il y en avait une ou deux qu'il a offertes à mon père, et dont mon père était très fier aussi. Mon père, je sais pas, j'ai une anecdote qui me vient comme ça, où mon père me racontait qu'une fois en cours avec ce fameux Stéphane Gheorghiu, il lui dit, il jouait le concerto Sibelius, et mon père joue quelque chose, et Stéphane Gheorghiu l'arrête, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, t'y arrives pas trop? Il lui dit, oui, mais j'ai choisi ce coup d'archer parce que, voilà, c'est la partition avec les annotations de David Oistrakh, et lui, il fait comme ça. Donc, j'ai envie de le faire, et là, le professeur l'arrête, il lui dit, le jour où tu joueras comme David Oistrakh, tu pourras faire ce coup d'archer. Bon, bref, ça a marqué mon père. Et non, mais comme quoi, faut jamais lâcher, quoi. Faut continuer de. C'est un peu ce que je voulais dire à travers cette anecdote, c'est que la Roumanie, c'est un pays latin entouré de Slaves, donc il y a quand même une douceur par rapport à la technique slave, russe, travailler dans le froid, moins un degré, la gamme avec les yeux bandés, enfin j'en sais rien, bon j'imagine le truc. Bon, c'est vrai, c'est pas sévère à ce point-là, mais il y a cette rigueur, effectivement. Je veux dire, non, on peut pas réussir tant qu'on fait pas de technique un peu tous les jours, t'y arriveras pas, quoi.
France Musique, les grands entretiens de Sarah Nemtanou.
Lorsque l'on pense à Bordeaux et à ces années-là, peut-être parce que sur France Musique, on a eu la chance de recevoir aux grands entretiens Teddy Papavrami, je pense aussi à son père, parce que voilà qu'ils avaient atterri depuis leur Albanie après 1000 rebondissements à Bordeaux. Et le père de Teddy Papavrami, qui était aussi son premier professeur, enseignait à Bordeaux.
Absolument.
C'est une école, là, quand vous disiez, Sarah, de jouer dans le froid, une gamme, les yeux bandés, dans les récits de Teddy Papavrami, on sent que voilà, il y avait quand même beaucoup moins de douceur dans l'apprentissage. Est-ce que votre père le connaissait? Est-ce que
Oui, absolument. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup parce que c'est pas forcément de bons souvenirs. Je le dis sincèrement.
Vous avez été son élève?
Oui, à un moment donné, avec ma sœur, on a fait partie effectivement du centre Pierre Rode qu'il a créé à Gradignan, à 20 km de Bordeaux. Et nos parents se sont rapprochés de Robert Papavrami parce qu'il a eu une histoire. Leur histoire a été médiatisée à un moment, et mes parents se sont forcément, je crois, sentis proches, voilà, de ce parcours similaire. Et donc Robert a créé cette école. Et donc il avait engagé une institutrice qui faisait les cours l'après-midi d'école pour les enfants, et le matin il y avait violon. Et c'était vraiment effectivement une technique d'enseignement vraiment de l'Est, quoi. C'est-à-dire on faisait beaucoup de techniques en groupe, et ensuite on travaillait individuellement avec des minuteurs. Il fallait faire une heure, fallait pas sortir de la chambre tant qu'on n'avait pas fait 30 minutes tel exercice, tout ça. Mais moi je n'y étais pas, et ma sœur, on n'y était pas quotidiennement. On y allait une fois par semaine, et il venait de temps en temps nous donner des cours particuliers. Ça a duré 2-3 ans. Mais après, je trouvais, avec le recul aujourd'hui, voilà, je trouve que c'était trop sévère, et que trop sévère pour rien. ¶¶
On apprend aussi par les disques quelle place ça avait. Parce que quand on a des parents musiciens, eux-mêmes font la musique, mais est-ce que c'est pas toujours les musiciens qui écoutent le plus de musique?
Absolument, vous avez tout à fait raison. Mais j'ai quand même un souvenir, une histoire particulière avec le concerto de Tchaïkovski interprété par David Oistrakh. Parce que j'ai eu un coup de foudre vraiment pour ce concerto, et j'ai très tôt eu envie de le jouer. Et j'avais tellement insisté qu'à l'âge de 9 ans, mon père a dit ok, tu peux faire un peu le premier mouvement si tu veux. Et j'avais travaillé ce premier mouvement, et ça a duré quelques mois, et puis je l'ai laissé de côté. Et ensuite, pendant tout mon parcours, ce concerto est resté dans une sorte de tiroir une clé dessus. Mais je sentais que ça, j'allais avoir une histoire particulière avec ce concerto. Et c'est vrai qu'après, le film Le Concert est arrivé. Et puis j'ai eu cette chance extraordinaire, voilà, de le jouer pour ce film. Et après, d'être appelée à le jouer une quarantaine de fois depuis. Mais sans jamais m'en lasser. Mais voilà, cet enregistrement m'a profondément marqué. Et
c'était quoi? C'était un son ou c'était la partition de Tchaïkovski?
Non, c'était vraiment la partition. La partition et effectivement le son de David Oistrakh, mais sa puissance, quoi, d'interprétation, c'est-à-dire le feu et la sobriété alliés. C'est extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit soit le feu, soit la sobriété, et que le mélange des deux est un équilibre délicat. Et j'essaye d'affiner ça aujourd'hui encore, parce que effectivement, voilà, je m'en cache pas, et c'est connu, j'ai ce feu, j'ai cette fougue, voilà, je l'ai, je suis contente, mais il faut réussir à la maîtriser, quoi, et la rendre utile, quoi, la guider, quoi, il faut qu'elle ait un sens. Et je suis extrêmement surprise de voir à quel point on peut creuser encore aujourd'hui. C'est comme au théâtre, quand on interprète un texte, il faut l'interprète qui le lit ou qui le récite, il est plus ou moins extraordinaire et on ne sait pas pourquoi. Par exemple, je ne sais pas, Depardieu, pourquoi il est si extraordinaire? Pourquoi il incarne tellement ces personnages? Pourquoi c'est un acteur incroyable? Mais parce qu'il lit quelque chose d'invisible. Et qui existe, et qui est là, sous nos yeux. Et c'est ça que j'essaye de creuser aujourd'hui. Et toute l'éducation que j'ai eue m'aide. Tous ces phares, tous ces moments qui brillent comme ça, de souvenirs de ce Tchaïkovski avec Oistrakh, c'est l'invisible, interstitiel. Voilà, on m'a appris ce mot. C'est la vérité. Elle est dans les interstices, vous voyez.
Avec votre sœur, Sarah Nemdanou, vous avez un parcours qui est assez similaire. Hein. Vous deux filles donc de musiciens, votre mère cantatrice, votre père violoniste, violon solo de l'Orchestre National de Bordeaux. Vous n'aviez d'autre choix que d'être violon solo à votre tour. Vous l'êtes devenu, on y arrivera tout à l'heure. Mais ce parcours comme ça qui avance en cadence toutes les deux, c'est peut-être aussi une manière de se remettre sans cesse en question, de voir l'autre agir, d'avoir une forme de miroir. C'était facile de garder son identité.
C'est vrai que on n'a pas vécu du tout de la même manière notre parcours de violoniste. C'est vrai qu'à partir du conservatoire de Paris, c'est là qu'on est confronté un peu plus quand même au niveau de national et que c'est intéressant. Moi, j'adore le challenge. J'adore être entourée de gens qui jouent bien, qui m'inspirent et essayer essayer de faire du mieux possible pour les impressionner. J'ai ce côté très coq. Et je dis coq parce que j'ai un côté féminin masculin. J'ai toujours aussi aimé être en pantalon, en smoking, sur scène. J'aime pas trop les robes. Et j'ai ce côté-là, c'est vrai, où ça m'aide énormément. Je suis dans le challenge. J'aime ça.
Et vous en avez été beaucoup protégée, en fait, du challenge. Je vous coupe, Sarah, mais vous avez peu passé de concours, etc. Quand vous rentrez au CNSM, au conservatoire à Paris, c'est un peu peut-être le premier grand concours que vous passez, le concours d'entrée.
Alors, je vais être franche avec vous. J'ai raté la première fois le concours d'entrée à 15 ans. Voilà, je l'ai raté, j'étais d'une tristesse. Surtout qu'il y avait une telle qui était au conservatoire de Bordeaux avec moi, qui l'avait eue et que je trouvais que, bon, quand même, je jouais pas moins bien qu'elle. Et voilà, c'était ma première claque, en gros, ce concours d'entrée au CNSM. Et à la deuxième fois, je suis rentrée deuxième nommée. Et là, je peux vous dire que la première nommée, j'ai même pas eu besoin de lui parler, elle me détestait direct, quoi, parce qu'elle a senti, elle a dû sentir tout de suite que, elle a dû sentir que je la mettais dans le challenge, même avant de lui parler. Mais voilà, en tout cas avec ma sœur, parce que c'est le sujet, donc on n'a pas du tout vécu ce parcours de la même manière. Elle l'a eu peut-être parce que c'est la petite sœur, c'est vrai, elle était plus dans mon sillon, effectivement. Elle a aussi voulu être violon solo parce qu'elle a vu que c'était aussi une opportunité extraordinaire de pouvoir être gagner bien sa vie et puis être chef quelque part et pouvoir être soliste d'un orchestre et avoir du temps aussi à côté. Et voilà, c'est vrai qu'on n'avait plus notre mère à cette époque et on avait, je sais pas, cet instinct de survie de se dire, ah bah, faut qu'on trouve, je sais pas, et puis notre père est violon solo, il est heureux, donc ouais, faut qu'on trouve un poste et puis on le fait, on essaye. Donc ça a marché. C'est vrai pour elle et pour moi. Mais quand je parle avec elle, parce qu'on parle très ouvertement, elle a moins bien vécu cette concurrence entre guillemets que moi. Certainement parce que je suis sa grande sœur, comme je l'ai déjà dit, et que elle se sentait peut-être un peu obligée de faire pareil et qu'on nous comparait forcément. Mais ça va très bien. Aujourd'hui, on fait du duo et on est très très heureuse de pas du tout presque avoir besoin de travailler ensemble pour monter des programmes. Tellement qu'on est en télépathie, c'est-à-dire que, évidemment, là, je vous parle juste d'un détail peut-être un peu plus sombre, oui, effectivement, mais tout le reste, 90%, 15%, c'est que du bonheur, quoi. C'est incroyable, c'est télépathique.
C'est sur ce 36e duo de Béla Bartok par les sœurs Nemtanou que se referme le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Sarah Nemtanou. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Philippe Mercher, mixage Pierre Monteil, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. À réécouter sur francemusique.fr.